Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 6 mars. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner tout au long de ce programme. Et dans notre rubrique aujourd'hui, dans le programme, dans notre rubrique rétro, nous allons faire un retour sur l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. C'était un 6 mars, le 6 mars 1980, et ça ne s'était jamais fait auparavant d'avoir une femme élue à l'Académie française. Nous avons également un entretien avec une autre grande dame, Claudie Aigneret, la première femme européenne à entrer dans l'espace. Deux grandes dames donc dans notre programme, ce à deux jours seulement de la Journée internationale de la femme. Mais tout de suite, le journal. Les États australiens prêts à accélérer le déploiement de leur vaccin Covid-19 à mesure qu'ils reçoivent des doses d'AstraZeneca. Et en France, accélération de la campagne vaccinale contre le Covid-19 sur fond de réticence des professionnels de la santé. Et au football, l'Australie va encourager une plus grande participation des femmes dans le sport en marge de la Journée internationale de la femme. Les États d'Australie sont prêts à accélérer le déploiement de leur vaccin COVID-19 à mesure qu'ils reçoivent des doses d'AstraZeneca. Le Victoria a reçu son premier lot de plus de 50 000 vaccins AstraZeneca qui seront administrés à partir de la semaine prochaine. La Tasmanie devrait recevoir 6 700 doses d'AstraZeneca, ce qui lui permettra de commencer la prochaine phase de son déploiement vaccinal deux semaines plus tôt que prévu. Et le territoire du Nord devrait commencer les vaccinations dans les régions éloignées dès aujourd'hui. À ce jour, l'Australie a administré 70 000 vaccins contre le COVID-19. Et un plus grand nombre d'Australiens bloqués à l'étranger pourront bientôt rentrer chez eux tous les 15 jours. L'Australie occidentale augmentera les plafonds d'arrivée à 1025 personnes par semaine à partir du 26 mars, tandis que le Victoria est encouragé à accepter bientôt les vols internationaux. L'installation de quarantaine de Howard Springs dans le territoire du Nord augmentera sa capacité de 850 à 2000 voyageurs d'ici la fin du mois de mai. Le ministre en chef du territoire du Nord, Michael Gunner, a confirmé que son gouvernement gérerait l'installation avec l'aide financière du gouvernement fédéral.
Expanding the facility will be a huge logistical job, but we are up for it and we will do it efficiently and safely. We have agreed to this expansion because we know Howard Springs can play a larger role for the nation without compromising the safety of Territorians.
Ainsi, les installations d'hébergement, d'éclairage et de stockage seront modernisées et un nouveau centre médical sera construit. Les effectifs passeront de 100 à 500 personnes et une campagne de recrutement débutera plus tard ce mois. Le gouvernement fédéral examinera également une proposition visant à utiliser un aéroport privé près de Toowoomba comme installation de quarantaine. Des partisans d'un examen indépendant de la culture du lieu de travail du Parlement australien espèrent que cet examen aboutira à un changement systémique. Cela intervient après que l'ancienne employée Brittany Higgins ait déclaré avoir été violée au Parlement au bureau de la ministre Linda Reynolds en 2019. La commissaire australienne pour la discrimination sexuelle, Kate Jenkins, dirigera l'examen en recueillant des soumissions d'anciens et actuels employés ainsi que de parlementaires. Madame Jenkins a déclaré à la ABC qu'elle se concentrera sur la collecte des témoignages de harcèlement sexuel, d'agression et d'intimidation sur le lieu de travail.
So it's sort of looking at that unique bit of the world and all the people around them, particularly recognising the experience of sexual harassment, sexual assault and bullying, and how that is to be combated, but also just really with an objective of looking at how to make these safer and more respectful workplaces, and recognising that that will involve probably recommendations about better prevention and also better response mechanisms.
Une mise à jour publique et les résultats de cet examen sont attendus au mois de juillet prochain. Le radiodiffuseur public SBS suspend la diffusion du service d'information télévisée chinois CGTN et CCTV suite à des préoccupations en matière de droits de l'homme. L'organisation de défense des droits humains Safeguard Defenders a déclaré que CCTV avait diffusé les aveux forcés de plus de 50 personnes entre 2013 et 2020. CGTN, un service en anglais de 15 minutes, et CCTV, un service en mandarin de 30 minutes, sont toutes deux diffusées sur SBS dans le cadre de la programmation de World Watch. Le mois dernier, un organisme de surveillance des médias britanniques avait révoqué la licence de CGTN en raison de soi-disant infractions graves de non-conformité. Et en France, le gouvernement a précisé ses objectifs concernant le déploiement de la campagne vaccinale contre le Covid. Au moins 10 millions de premières injections devraient être administrées d'ici la mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions d'ici l'été. Et dès ce week-end commence une accélération de la cadence vaccinale. Ainsi, certains centres resteront ouverts tout le long du week-end dans les 23 départements sous surveillance. La pierre d'achoppement de cette campagne reste le personnel soignant, dont un tiers seulement se sont fait vacciner. Et le gouvernement estime que cela est trop peu. Et face à la réticence du personnel soignant de se faire vacciner, le gouvernement et la présidence de la République étudient la possibilité de rendre le vaccin obligatoire pour tous les professionnels de santé. Ainsi, Agnès Firmin-Lebaudeau, députée du groupe parlementaire Agir Ensemble, a d'ailleurs déposé une proposition de résolution allant dans ce sens à l'Assemblée nationale.
Nous savons tous que le seul moyen de nous sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire, c'est le vaccin. Et donc, lorsqu'on est professionnel de santé, moi je suis pharmacien, je me suis vacciné tout de suite dès que j'ai pu le faire, que je suis rentré dans les cases, professionnel de plus de 50 ans. C'est une façon de me protéger, mais c'est aussi une façon de protéger les patients auxquels je pratiquais notamment des tests antigéniques. Peut-être il faut avoir le débat, mais lorsqu'on est professionnel de santé et qu'on travaille dans un hôpital ou même dans une crèche ou dans un EHPAD, on a déjà des vaccins obligatoires. Se vacciner, c'est aussi protéger les autres. Donc c'est un acte de responsabilité individuelle qui permet à la collectivité de gagner cette bataille contre le virus.
Et toujours en France, à partir de ce samedi matin, près de 1,5 million d'habitants du Pas-de-Calais sont reconfinés pendant 4 week-ends consécutifs. Cela s'ajoute aux habitants de Nice et du littoral ou de l'agglomération de Dunkerque. En tout, ce sont 23 départements qui sont touchés et le gouvernement invite la population à limiter les déplacements. Paris et la région parisienne échappent au confinement, mais de nouvelles restrictions ont été introduites dans la capitale et sa région. Et Patrick Dupont, danseur étoile et figure médiatique, est décédé hier à l'âge de 61 ans des suites d'une maladie foudroyante, c'est ce qu'a annoncé son entourage. Ce passionné de la danse était une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris et de la danse en général en France, connue du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet. Patrick Dupont avait débuté sa carrière en tant que danseur étoile à l'Opéra de Paris à l'âge de 21 ans. Et le pape François a atterri hier à Bagdad pour son voyage à l'étranger le plus risqué depuis son élection. Le pontife de 84 ans espère encourager les chrétiens à rester en Irak et à aider à la reconstruction du pays après des années de guerre. À bord de l'avion du souverain pontife, son entourage et de son entourage se trouvaient pas moins de 75 journalistes et des agents chargés de sa protection. De son côté, l'Irak avait déployé des milliers d'agents de sécurité. Et on écoute cette chrétienne de Bagdad qui s'est dit très ravie de voir le pape atterrir sur le sol irakien.
I never thought I would see the Pope, honestly. It was a visit we believed to be impossible. Even though the country's conditions are poor, infrastructure is poor, we thought it was impossible. But it was the best surprise.
La plateforme vidéo YouTube a supprimé 5 chaînes de réseau de télévision gérées par l'armée birmane qui a pris le contrôle du pays. La plateforme a déclaré qu'un certain nombre de chaînes et de vidéos avaient été supprimées conformément aux directives de la communauté et aux lois applicables. Cela intervient alors que les manifestations contre la prise du pouvoir par les militaires et en faveur de la démocratie se poursuivent à travers le Myanmar. Ravina Shamdasani, porte-parole du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré que plus de 1700 personnes avaient été arrêtées et plus de 50 tuées.
Myanmar's military must stop murdering and jailing protesters. It is utterly abhorrent that security forces are firing live ammunition against peaceful protesters across the country. We are also appalled at the documented attacks against emergency medical staff and ambulances that are attempting to provide care to those who have been injured.
Et retour en Australie où les manifestants des droits de LGBT défileront le long d'Oxford Street tandis que le défilé du Mardi Gras se tiendra au Sydney Cricket Ground. La manifestation est la première à bénéficier d'une exemption en Nouvelle-Galles du Sud pendant la pandémie et aura lieu ce samedi après-midi. Le Mardi Gras 2021 qui se tient donc cet après-midi au Sydney Cricket Ground est sécurisé COVID-19. Le leader travailliste Anthony Albanese a déjà confirmé qu'il les assistera. Et Albert Kruger, PDG de Mardi Gras, déclare qu'il reste encore beaucoup à faire pour la communauté LGBT.
Even the pandemic will not stop us from expressing our true authentic selves during our time of our greatest visibility. We have come so far that it seems otherworldly that generations living today lived in an Australia where it was a crime to be gay. We are more open and more diverse Australian society as a result. However, our work is not finished. Too many in our community that still feel the sting of stigma.
Et en sport, Football Australia va célébrer la semaine du football féminin avant la journée internationale de la femme, donc lundi 8 mars. La campagne Legacy 23 sera lancée à l'occasion de la journée internationale de la femme en mettant l'accent sur la réalisation des femmes et l'augmentation de la participation des femmes dans le sport. L'événement sera organisé par Stephanie Brands, présentatrice sportive et directrice du football en Nouvelle-Galles du Sud, et mettra en vedette des panélistes de la FIFA, de Football Australia et d'autres. James Johnson, CEO de Football Australia, a déclaré que la campagne va mettre l'accent sur l'importance de la co-organisation par l'Australie de la Coupe du monde féminine de la FIFA en 2023. Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 25 degrés, Adélaïde 28, Melbourne 21, Hobart 19, Canberra 24, Wollongong 21, Sydney 24 degrés, Newcastle 23, Brisbane 28, Cairns 32 et Darwin 33. Les États australiens sont prêts à accélérer le déploiement de leur vaccin COVID-19 à mesure qu'ils reçoivent des doses d'AstraZeneca. Et en France, accélération de la campagne vaccinale contre le COVID-19 sur fond de réticence des professionnels de la santé. Et Football Australia va encourager une plus grande participation des femmes dans le sport en marge de la Journée internationale de la femme.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Et page de sport un petit peu spéciale aujourd'hui, on va se consacrer sur le Paris-Nice. Le Paris-Nice est une course qui débute la semaine prochaine entre le 7 et le 14 mars, une course que vous pourrez suivre d'ailleurs à l'antenne de SBS. Christian Prudhomme nous dévoile les secrets de cette édition 2021 du Paris-Nice, une édition encore une fois entachée avec le Covid-19, mais ça n'empêche pas ASO d'organiser la course donc qui sera sur SBS à partir du 7 mars prochain. Christian Prudhomme.
C'est un parcours très alléchant avec un départ des Yvelines comme depuis 2010 avec une première étape qui est souvent très importante. Depuis quelques années, il y a toujours des surprises, des bordures avec le vent notamment le premier jour. Il y aura ensuite un contre-la-montre de 14 km le mardi à Gien qui sera évidemment un rendez-vous pour les favoris du classement général. Le lendemain, une étape rare, 3500 mètres de dénivelé dans les monts du Beaujolais avec deux fois le Mont Brouillé qui devient un classique de Paris-Nice et une arrivée à Chirouble. Avec un final fait pour les favoris du classement général, avec des rampes à plus de 10% dans les derniers kilomètres d'ascension. Et puis ensuite, un final classique, mais de qualité, samedi dimanche, à Nice et dans l'arrière-pays niçois, où ce Paris-Nice, qui a souvent des allures de scénario à la Hitchcock, se joue pour quelques secondes. Paris-Nice se joue souvent à quelques secondes, 2016, 2017, 2018, ça s'est joué pour au maximum 4 secondes au tout dernier moment. Donc dans les dernières ascensions, et notamment aussi dernières ascensions et dernières descentes, vers la Méditerranée, la Côte d'Azur et vers Nice, l'attaquant a suffisamment d'avance pour gagner et puis finalement se fait reprendre, on n'a plus assez d'avance, mais parfois c'est le contraire aussi. Donc ça c'est une tradition de Paris-Nice qui existe depuis longtemps, puisqu'il y a près de 50 ans, Raymond Poulidor avait triomphé du plus grand champion cycliste de l'histoire à Limerck le dernier jour au Col d'Aise dans un contre-la-montre. Donc ça fait vraiment partie de ce qu'est Paris-Nice. Le plateau sera sans aucun doute très beau, mais à la différence de ce que nous pouvons annoncer d'ordinaire, la plupart des équipes n'ont pas encore complètement fait leur planning pour les 3 premiers mois de la saison parce qu'ils attendent encore quelques jours pour dire où iront leurs coureurs parce que des épreuves ont d'ores et déjà été annulées. Je pense au début de saison annulées en Australie, je pense au Tour de Colombie, le Tour de San Juan en Argentine n'est plus qu'incertain et donc en fait les équipes attendent aussi parce que leurs coureurs qui sont en Amérique du Sud ou dans les îles britanniques ne peuvent pas rejoindre le reste des différentes formations. Donc il y a une vraie incertitude. En revanche, le numéro 1 mondial, vainqueur de la Vuelta, le Tour d'Espagne, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, qui a fait figure de vainqueur imparable du Tour de France pendant plus de 10 jours, Primoz Roglic sera au départ et découvrira Paris-Nice. Et avec lui, il y aura d'autres coureurs de grande qualité, avec également Warren Barguil, par exemple, du côté des Français, avec l'ancien champion du monde Philippe Gilbert, avec toute une série de sprinteurs de grand talent. De toute façon, Paris-Nice 2020, c'était en France le tout début des mesures contre la pandémie, donc il a fallu que nous nous adaptions tous les jours. À l'époque, il y avait un système de jauge. Il y avait une jauge à 5000 personnes le dimanche. Le lendemain, lundi, il y avait une jauge à 1000 personnes. Et le samedi, juste avant l'arrivée, il y avait une jauge à 100 personnes. Et puis le dimanche, il a fallu qu'on n'organise pas la dernière étape, qui était la première fois depuis 1933. Sur le Tour de France, c'était la même chose. Il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter dans toutes les compétitions cyclistes, que nous les organisions, ou que ce soit d'autres organisateurs. Et on fera la même chose, naturellement, au-delà des courses cyclistes. Plus vite nous pourrons avoir une vie normale, mieux nous porterons les uns et les autres, évidemment, dans toute activité en France et partout dans le monde. La force du cyclisme en 2020, c'est d'avoir été solidaire. C'est-à-dire que dès le départ, tout le monde a travaillé ensemble. Ce qui était assez curieux pour nous, c'était les autres qui nous disaient que le Tour de France était la plus grande course cycliste du monde. Nous le savons, on en est fiers. Mais on est encore plus heureux quand ce sont les autres qui le disent. Quand des responsables d'équipe ou des coureurs ou l'Union Cycliste Internationale nous a dit « Mais donnez des nouvelles dates pour le Tour de France parce que c'est à partir de ce socle qu'on pourra bâtir une saison. » Et tout le monde nous l'a dit. Voilà. On a vraiment été solidaires. Donc il faut que cette solidarité-là existe toujours, qu'on travaille ensemble. Il y a eu des multitudes de réunions. Les collectivités qui sont essentielles ont toutes été là. Aucun des maillons de la chaîne du Tour, de Paris-Nice, du Dauphiné n'a cédé. Ils ont tous été là. Le sport cycliste a été, encore une fois, solidaire. Donc voilà, nous savons que nous pouvons organiser dans des conditions de pandémie. Maintenant, on a très envie d'organiser comme avant, c'est une évidence. Le sport cycliste, c'est une véritable pyramide. Le Tour de France est au sommet de cette pyramide, mais naturellement, il est d'autant plus fort que la base est solide et large. À la base, bien évidemment, dans un sport où les organisateurs sont le plus souvent bénévoles, nous, au Tour de France, on a la chance d'être payés pour assouvir, exercer notre passion, notre métier. La plupart des organisateurs sont des bénévoles. Alors, ils souffrent encore plus, évidemment, puis c'est vrai aussi pour les équipes, les partenaires viennent. C'est d'ailleurs pour ça que les partenaires viennent pour les plus grandes courses et notamment pour le Tour de France. C'est bien ce qu'on nous a dit au printemps dernier en disant il faut que le Tour soit là, puisque les partenaires viennent essentiellement pour la visibilité du Tour qui est extraordinaire et magnifique. Hein. Les images du Tour sont diffusées dans 190 pays dans le monde. Donc si vous faites le Tour ou si vous ne le faites pas, si le Tour existe ou s'il n'existe pas, c'est pas du tout la même histoire, c'est une évidence.
C'était Sa Majesté la Mère avec Zofir Maracas sur les antennes de la radio SBS ce samedi 6 mars. Après une courte pause, on va passer à notre rubrique rétro. On va parler donc de l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. C'était la première femme à être élue à cette prestigieuse académie.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes le 6 mars. Notre rubrique rétro, le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar, l'écrivaine française, à la fois poétesse, essayiste, romancière, entrée à l'Académie française. Elle était âgée de 77 ans. Une grande première. Marguerite Yourcenar, décédée en 1987, fut la première femme ainsi élue par ses pairs à l'Académie française.
Le dernier bastion du sexisme est tombé, Marguerite Yourcenar, élue à l'Académie française.
Nous parlons des femmes, elles ne siègent à l'Académie française que depuis une date plutôt récente. Le 6 mars 1980, c'est le jour où Marguerite Yourcenar est entrée sous la coupole. Il aura fallu attendre près de 350 ans pour qu'une femme accède enfin au fauteuil de cette vénérable institution, une élection vécue comme un coup de tonnerre. En tout cas, découvrons tout de suite le parcours hors norme de la première femme élue à l'Académie française.
Marguerite Yourcenar était une grande dame de la littérature, mais elle était aussi une anticonformiste qui vivait avec une femme, militait pour la défense de toutes les minorités et parcourait le monde en autobus. Pour se libérer des traditions familiales, son père était un noble terrien belge, Mademoiselle de Crayancourt devient Madame Yourcenar, anagramme de son nom. « J'aime la lettre Y », dit-elle, qui me fait penser à un arbre. Après 5 romans, c'est avec les mémoires d'Adrien que Marguerite Yourcenar connaît la notoriété. Rien ne nous échappe de la destinée de l'empereur romain qui a dominé son époque, rien n'est omis des obsessions de l'auteur sur l'amour et la mort. Son succès est confirmé par la publication de l'œuvre au noir qui se déroule pendant la Renaissance. Ultime consécration, Jean d'Ormesson l'a fait élire à l'Académie française. Yourcenar accepte par politesse, dit-elle.
« Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant, dont j'ai contesté moi-même l'existence, et que je ne sens vraiment délimité que par quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici. Tel qu'il est, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Les femmes de l'Ancien Régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil. Et peut-être eussent-elles cru déchoir, en le faisant, de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui, m'assure-t-on, dure jusqu'à nos jours. Elle se souciait fort peu d'être elle-même candidate. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influence féminine, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettait pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil.
Ont obtenu Madame Yourcenar 20 voix, Monsieur Dorst 12 voix, bulletin marqué d'une croix 3 et bulletin blanc 1. Par conséquent, Madame Yourcenar succédera à Roger Caillois.
J'ai longtemps cru avoir très peu de souvenirs d'enfance, mais je me trompais. Certains reviennent aujourd'hui comme une chambre au volet clos dans laquelle on ne s'est pas aventuré depuis longtemps. Ces mots sont extraits de « Quoi l'éternité ?» de Marguerite Yourcenar, bien sûr, publié en 1988.
On a des traces d'écrits autour de 10 ans. Elle va publier assez jeune, effectivement, un recueil de poèmes. Elle savait que quelque chose l'attendait, qu'un destin se dressait devant elle. Et elle ne s'en cachait pas dès plus jeune âge.
Ma première patrie ont été les livres, écrira-t-elle à la fin de sa vie.
Est-ce qu'on est allé chercher Marguerite Yourcenar pour qu'elle entre à l'Académie française? La légende dit que c'est Jean d'Ormesson qui a été envoyé en ambassadeur.
On me demande quelquefois, qu'est-ce que vous avez fait à l'Académie? Et la réponse est assez claire, c'est presque rien. Mais j'ai quand même fait quelque chose, c'était une révolution, j'ai fait entrer Marguerite Yourcenar, et c'était quelque chose. L'Académie, c'était très simple, ne voulait pas de femmes. Le règlement était muet sur ce, n'interdisait pas les femmes, mais il y avait plus dur et plus fort que le règlement, c'était la tradition. En 350 ans, on n'avait élu ni Madame de Lafayette, ni Madame du Deffand, ni Georges Sand, ni Colette. Et l'Académie ne voulait absolument pas de femmes. Mais j'ai imposé Marguerite Yourcenar. L'Académie a voté pour Yourcenar parce que la pression vraiment de l'opinion était telle. Je pense qu'il y avait 90% des Français qui ne voyaient pas pourquoi une femme n'entrerait pas à l'Académie. Je n'ai pas agi par féminisme, ni par amitié, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas et je n'ai pas agi par féminisme, mais j'admirais Marguerite Yourcenar.
Une épée, sûrement pas, un grand costume non plus. Mais en ce moment, il me semble qu'on ne parle pas de moi. On parle d'une femme qui allait peut-être entrer à l'Académie ou est entrée à l'Académie, et cette femme est assez éloignée de ce que je crois être moi-même. Et quant à mes livres, il n'en est, pour ainsi dire, plus jamais question. Alors comment voulez-vous que je m'intéresse particulièrement à cette dame dont on parle dans les journaux? Beaucoup de gens qui parlent de moi semblent avoir oublié que j'écris des livres ou ne les avoir jamais lus.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était Isaïe par Christine Salem.
Choisissez sbs.com.au/French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/French.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec nous sur SBS French, nous avons le plaisir d'avoir la première femme européenne à être allée dans l'espace. C'est Claudie Aigneret. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Madame Aigneret, la question que je voulais vous poser, vous êtes partie dans l'espace, donc forcément vous étiez très loin de presque tout le monde, sauf bien sûr des autres membres de votre équipage. Pour le coup, un tout petit groupe dans un espace confiné, même si la Station Spatiale Internationale, c'est pas si petit que ça au final, mais enfin, on peut pas ouvrir la porte pour aller prendre l'air. Alors, vous évoquiez le fait d'avoir un objectif commun et évidemment, beaucoup de travaux à accomplir tous les jours. Mais ça doit être difficile malgré tout de vivre en permanence avec ses collègues.
Alors, il y a deux facettes dans votre question. Il y a à la fois cette vie d'équipage, on se connaît bien, on s'est entraîné de longue date ensemble, on partage cet objectif commun, on doit être dans la complémentarité pour maintenir la station, pour réaliser le programme scientifique. Donc, tout ça, ça nous soude. Et puis, on est ce petit groupe d'êtres humains, je le disais, qui partagent des moments très forts dans cette vie à la fois de travail, mais aussi la vie contemplative par le hublot. Ensuite, le deuxième élément, c'est que ce n'est pas tout à fait un confinement comme celui qu'on peut vivre en cette période de crise sanitaire. Parce que quand on est candidate astronaute et puis quand on part à l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui est un objectif de notre vie. Moi, c'était un rêve d'enfant. J'avais 12 ans en juillet 69, au premier pas de l'homme sur la Lune. Et voilà, cette petite étoile, cette petite étincelle du rêve possible de participer à l'aventure spatiale était en moi et m'a motivée. Donc, c'est une situation qu'on choisit, en fait, et pour laquelle on travaille, on s'investit pendant des années et des années. Donc je dirais entre guillemets que c'est un confinement choisi, et je dirais même que on est un petit peu frustré, nostalgique quand on doit sortir du confinement, partir de la station spatiale et revenir sur Terre. Donc ça, ce sont des conditions un petit peu différentes de ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec cette crise du Covid. Mais bien évidemment, sur une mission de très longue durée, plusieurs mois dans l'espace, je ne vais pas vous dire que l'équilibre est harmonieux et le moral est au beau fixe pendant 6 mois d'une situation où parfois il y a des moments répétitifs, des moments de difficulté dans l'organisation du travail. Mais ça, c'est un petit peu comme toute vie en société confrontée au problème du réussir ensemble et du vivre ensemble.
Et alors, par rapport à ça, tout à l'heure, vous parliez du deep space, l'espace profond, mais même en orbite, on reste beaucoup plus près, mais la communication avec la Terre, les proches, la famille, les enfants, est-ce qu'on peut leur parler aussi souvent qu'on veut? Est-ce que ça capte sur la Station Spatiale Internationale?
Bah, c'est une question intéressante et je vais vous répondre avec mon expérience, je dirais, d'astronaute du 20e siècle, du siècle dernier, une mission 96 et une mission 2001, mais c'était le 20e siècle. Et à ce moment-là, effectivement, sur ces 90 minutes d'une orbite, par exemple, dans ma première mission sur la station Mir en 96, nous n'avions la possibilité de communiquer avec le sol que lorsque nous passions au-dessus d'une antenne située sur le territoire russe, c'est-à-dire qu'on avait 10 minutes de communication. Donc ça, c'était pour moi les astronautes du 20e siècle. C'est pas très facile pendant un vol de 6 mois, effectivement, quand vous n'avez que 10 minutes par jour dans l'exploitation, la maintenance de la station, et 10 minutes toujours grignotées par des problèmes techniques le dimanche pour communiquer avec votre famille. Ensuite, il y avait les radios amateurs qui étaient là avec leurs antennes, une fois de plus, pointées vers le ciel. Et on avait cette possibilité de communiquer par le système de radio amateur avec des écoles en Australie, avec des écoles dans le monde entier. Et ça, j'en garde un souvenir tout à fait ému. Aujourd'hui, au 21e siècle, ben voilà, c'est le monde de la digitalisation, c'est le monde de l'Internet, c'est le monde de l'accès et de la communication. Donc effectivement, la station spatiale en orbite basse est en lien constant avec le sol et en temps réel. Donc les astronautes nous envoient des photos absolument magnifiques de le regard par le hublot, sont en communication avec le sol, ont accès à Internet et aux réseaux sociaux, communiquent en visioconférence avec leur famille. Donc effectivement, ce 21e siècle dans la Station Spatiale Internationale, c'est beaucoup plus confortable pour ce qui est de la communication, ce qui permet d'ailleurs, parce qu'il y a à bord de la Station Spatiale Internationale de multiples laboratoires qui permettent de travailler dans des conditions formidables, d'avoir une recherche scientifique, une recherche technologique d'une très très grande qualité aujourd'hui.
Sur l'exploration spatiale, depuis quelques années, ça semble être reparti plus du côté privé, avec des initiatives comme celle de Elon Musk, SpaceX, etc. Ce regain d'intérêt pour l'espace, j'imagine qu'il vous fait plaisir.
Oui, bien sûr, il me fait plaisir. Alors, je dis souvent que je fais partie des astronautes génération Apollo. Et puis, depuis une dizaine d'années, ben, effectivement, on est entré dans une ère que certains qualifient de « new space », un espace nouveau, qui est beaucoup plus en émulation et en coopération entre des intérêts institutionnels, classiques, gouvernementaux, des agences gouvernementales ou intergouvernementales, et puis des entreprises privées qui stimulent la technologie, qui ont changé la façon de concevoir, par exemple les lanceurs. On parle beaucoup des lanceurs réutilisables, comme le Falcon 9 d'Elon Musk et d'autres entreprises. Et des visionnaires qui, effectivement, accompagnent cette dynamique pour l'exploration habitée lointaine. On parle de retour sur la Lune, on parle de mission martienne, là aussi, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que les jeunes astronautes d'aujourd'hui, c'est une génération Musk. Mais je trouve que tout ça est très stimulant parce que ça nous amène peut-être, nous, entreprises classiques du monde du spatial, d'ouvrir nos actions à des entreprises qui ne sont pas du monde du spatial. J'imagine, par exemple, ces missions vers la Lune. On s'installe sur la Lune, on y développe des habitats, des infrastructures pour y vivre et y travailler. Vous allez y avoir des problèmes d'énergie, des problèmes de communication, des problèmes d'économie circulaire pour gérer les déchets, des problèmes d'extraction de ressources potentiellement sur la Lune pour y fabriquer oxygène et hydrogène dont vous aurez besoin pour vivre. Tout ça, ce n'est pas les entreprises du spatial qui s'en chargent. Ce sont des entreprises d'autre nature. Donc, c'est à la fois l'espace qui s'associe au non-spatial et puis le public qui coordonne ses efforts avec le privé, à la fois pour la stimulation technologique, l'innovation, et puis effectivement des prises de risques, des levées de fonds, des participations qui vont permettre d'aller plus loin. Et j'insiste quand même sur un point particulier qui pour moi a été un moteur dans ma vie, c'est que ces grandes aventures scientifiques et technologiques qui dépassent des petits intérêts locaux et qui sont nécessaires vis-à-vis des enjeux globaux sur lesquels aujourd'hui on doit agir, le changement climatique, les réserves en eau, la biodiversité, la cybersécurité, tout ça nécessite d'avoir une coopération dans la recherche. Et pour moi, la Station spatiale internationale est un magnifique outil diplomatique au service de cette coopération.
J'ai en premier évoqué Elon Musk. Lui, son grand projet, c'est d'aller sur Mars et plus que ça, que des gens s'y installent, développer des habitats, etc., en faire une vraie colonie martienne comme beaucoup de films l'ont imaginé auparavant. Est-ce que c'est crédible et si ça l'est, vous pensez que ce serait possible, à quelle échéance que ça arrive, le premier homme sur Mars et puis la première maison sur Mars?
Oui, mais c'est une question qui traverse toutes nos possibilités d'avancer. Aujourd'hui, ce qu'on peut assurer, c'est qu'avant la fin de cette décennie, il y aura un retour de hommes et femmes sur la surface de la Lune. Aujourd'hui, il y a encore le programme Artemis lancé par NASA avec un premier alunissage en 2024, qui sera peut-être un petit peu décalé, mais tout ça, de toute façon, avant 2030. Et puis, nos partenaires, amis, compétiteurs chinois, qui eux aussi ont un programme aujourd'hui émergent dans le domaine de l'exploration habitée et qui planifie des missions habitées vers la Lune. Donc, tout ça, c'est du présent. On s'y prépare, les astronautes sont déjà à l'entraînement. Donc, ce n'est pas du tout de la science-fiction, ce n'est pas du tout de l'utopie. Par contre, se dire que des missions martiennes vont arriver dans les 5 années ou 10 années qui viennent, ça, c'est très, très compliqué. On attend aujourd'hui les missions martiennes automatiques et on a 3 sondes qui sont parties. On attend en 2021, d'ici quelques semaines, quelques mois, l'atterrissage de Perseverance, l'atterrissage chinois et puis l'orbite du satellite Emirati. Par contre, la présence de l'homme sur Mars, ça veut dire qu'on aura résolu des problèmes qui, aujourd'hui, n'ont pas de solution encore. Des missions de très longue durée, avec l'impact que ça peut avoir sur la physiologie, pas simplement parce qu'on est en microgravité ou gravité réduite, mais parce qu'on va se trouver confronté à un champ de radiation et ne plus être protégé par la magnétosphère terrestre quand on reste en orbite basse. Donc, ce sujet-là, un voyage de très, très longue durée, on parle de missions qui feront plutôt 18 mois, et ça, on n'en a pas encore l'expérience. Et puis, savoir être suffisamment autonome pour aller sur la planète Mars, repartir de la planète Mars et y vivre avec le peu d'éléments qu'on aura à apporter avec nous dans notre petite caravane spatiale. Mais il faut avoir des visionnaires qui nous poussent à aller plus loin, à dépasser les limites, ça c'est très important. Et je pense que cette impulsion-là, elle est formidable parce qu'elle nous permet de progresser. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je peux qualifier peut-être de dérive, de se dire que notre planète Terre est une planète qu'on doit abandonner parce que de toute façon, c'est irrécupérable aujourd'hui à cause de l'impact et de sa dégradation et qu'il faut absolument absolument nous trouver une planète de secours que nous irions coloniser ou nous installer en ne se souciant plus de la Terre. Ce n'est pas du tout ma philosophie, ce n'est pas la philosophie des agences spatiales aujourd'hui. C'est de donner le maximum de synergie entre la protection de notre planète et l'innovation sur Terre en utilisant l'innovation de l'exploration vers des lieux plus lointains et pas du tout de laisser tomber cette planète Terre absolument magnifique.
Une toute dernière chose, vous avez évoqué tout à l'heure, bien sûr, l'urgence climatique un peu partout sur Terre. On l'a vu très concrètement l'an dernier en Australie avec ces terribles incendies. Est-ce que la recherche liée à l'espace peut nous aider d'une manière ou d'une autre à soigner notre planète ?
Mais bien évidemment, c'est un des objectifs essentiels. Ce que je vous ai raconté au sujet de ces photographies qui sont envoyées depuis l'espace, des feux en Australie, par exemple, il y a des photographies absolument terrifiantes qui ont été envoyées depuis l'espace. Ça, c'est une façon de mettre nos yeux d'êtres humains en face de ce qu'on peut voir, ressentir, percevoir. C'est important. Mais il y a tous ces satellites automatiques, ces constellations, ces satellites d'observation de la Terre qui sont au service de cette compréhension des interactions entre atmosphère, les océans, les radiations. Et il y a même ce qu'on appelle un Science Climate Observatory, un observatoire de la science au service de la recherche climatique. C'est là aussi une coopération entre de multiples États dans le monde qui mettent ces possibilités techniques de l'observation de la Terre pour mieux comprendre, analyser, prévenir, anticiper et puis pourquoi pas transformer les politiques publiques aujourd'hui en ce qui concerne la déforestation, l'agriculture, le contrôle des océans. Donc, bien sûr, tout cet espace au service de la société et au service de la planète, au service des objectifs du développement durable, c'est quelque chose qui mobilise complètement toutes nos équipes de scientifiques et de techniciens.
Eh bien, merci beaucoup, Claudie Nuret.
Et au plaisir d'être proche avec vous et de venir vous rendre visite en Australie dès que possible. Merci.
La bienvenue quand vous voulez et aussi vite que vous le pourrez, surtout. Merci.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Toujours ton slim et n'oublie jamais, cavale, ça veut dire s'échapper.
Et c'était cavale par Kali. Bien, je vous rappelle qu'il y a deux événements dont je vous invite à explorer ce samedi. L'un, c'est à Townsville, à la célébration de la Journée internationale de la femme, un événement organisé par la communauté congolaise de Townsville en collaboration avec l'Alliance française de Townsville. C'est ce soir, entre 18h et 21h, donc ne ratez pas cet événement. Ambiance festive garantie, beaucoup musique, danse et divertissement. C'est ce soir, donc, commémoration de la Journée internationale de la femme à Townsville. Mais surtout, un autre plus gros événement, celui qui se déroule à Sydney cet après-midi, bien c'est le Sydney Mardi Gras, qui est aussi le Sydney qui est aussi connu sous le nom de Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. Et il est à la fois un festival et aussi un défilé annuel qui se déroule à Sydney. Et c'est l'équivalent de la Gay Pride dans les pays anglophones et aussi de la Marche de Fierté en France. Ces deux événements rassemblent la présence de centaines de milliers de personnes venues de toute l'Australie. Donc si vous êtes à Sydney, rendez-vous, allez du côté de Oxford Street et de Sydney Cricket Ground pour une ambiance festive garantie. Et ça commence au moment, peu après notre programme en fait, peu après notre programme, donc ça commence à 14h exactement. Et ceci nous amène tout doucement vers la fin de ce programme. Un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. « Les États australiens prêts à accélérer le déploiement de leur vaccin COVID-19 à mesure qu'ils reçoivent des doses d'AstraZeneca. Et en France, accélération de la campagne vaccinale contre le COVID-19 sur fond de réticence des professionnels de la santé. Et au football, Football Australia encourage une plus grande participation des femmes dans le sport en marge de la Journée internationale de la femme. Et ceci nous amène à la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bel après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. Prochaine édition du programme en français, c'est demain dimanche et vous serez en compagnie de Jean-Noël Ducasse. Je vous laisse maintenant en compagnie de Peuple du Monde, un bon morceau par Tonton David.
Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les danses sales. Avertissement pour tous les sans-voix dans les parages, ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. La vie de micro sur le rythme très très relax. Je suis méchant sauvage, j'écrase partout.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.